Bravo. Ça va, vous voyez ou bien? Est-ce qu'on va éteindre? On peut éteindre. Voilà, j'ai intitulé cette parabole « Quel temps fait-il en toi ?» Et ceux qui connaissent un peu le temps, quand on se prépare peut-être pour un pique-nique ou une course, et qu'on voit le ciel ainsi, on se pose quelques questions. Il y a différents nuages. Ceux qui connaissent évidemment la météo se rendent compte qu'un ciel ainsi n'annonce pas forcément que du beau temps. Et nous avons bien sûr des images satellites. Vous voyez ça peut-être à la télévision. Et vous savez peut-être qu'il y a ce qu'on appelle la haute pression et la dépression. Alors dans une parabole, vous n'allez pas dire que la dépression est mauvaise, on manquait tellement de pluie ces temps que la dépression qui est arrivée cette nuit est une très bonne chose. Donc c'est une parabole, n'allez pas dire que je suis contre les dépressions. Maintenant, c'est trop fort, ça joue. Voilà. Et puis vous avez peut-être déjà vu, il y a ces fameuses courbes qu'on appelle ectopastes, avec des pressions différentes. Et c'est parce qu'il y a des pressions différentes que le vent se met en route, que les dépressions se mettent aussi en route. Et il y a une particularité dans l'hémisphère nord où nous habitons, c'est que les dépressions tournent toujours dans le même sens. Ça veut dire que chez nous, ça tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles de la montre. C'est une donnée physique, on peut dire, dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Donc, les dépressions qui nous viennent souvent de l'Angleterre, et là, c'est aussi qu'une parabole, n'est-ce pas? Oui. Et il y a tant de bonnes choses qui nous viennent. D'abord, la pluie est aussi une bonne chose, mais on reçoit tant de choses spirituelles de l'Angleterre, donc ça reste une parabole. Mais c'est vrai que souvent, les dépressions nous viennent du nord de l'Europe par la France. Et si vous voulez savoir quel temps il fera demain ici, vous avez intérêt à vous intéresser à ce qui se passe en France. Et les dépressions circulent, comme on dit des fois. En général, elles avancent. Et c'est le cas, celles qui viennent du nord de la France, elles avancent tranquillement, elles passent et elles arrivent tranquillement chez nous. Maintenant, vous voyez, ici c'est la dépression qui tourne toujours dans ce sens, et ici c'est la haute pression qui tourne dans l'autre sens. Ça veut dire que, et en physique, les masses d'air ne se mélangent jamais, donc il y a toujours une bagarre, on peut dire, et on en entend parler quand il fait trop mauvais temps. On dit que l'anticyclone des Açores, par exemple, ne fait pas son travail, qu'il ne remonte pas assez. Voilà, donc, nous avons ce système et vous voyez, une caractéristique, c'est que entre les deux systèmes, il y a un courant d'air souvent très fort et c'est ici que commence ma parabole. Dans cette parabole, bien sûr, je vais faire de la haute pression, la vie en Christ, et de la dépression, la vie finalement selon le prince de ce monde. Or, dans la vie, très souvent, nous vivons les mêmes choses que ceux qui n'ont pas le même centre que nous. Si vous marchez dans la rue, vous n'avez pas forcément une lumière, un feu spécial qui dit « chrétien, chrétien, chrétien ». Nous devrions porter la bonne odeur de Jésus, nous devrions être des lettres écrites de Jésus, bien sûr, mais on va au travail, on s'habille, on mange, on fait beaucoup, beaucoup de choses comme tout un chacun. On marche très souvent dans une même direction. Mais voilà, Donc là, vous reconnaissez les systèmes qu'on voit des fois à la télévision avec ce système de vent qui parfois est très fort. Mais quand vous suivez le mouvement, vous voyez qu'il y a tout à coup une séparation. Et cela signifie qu'en tant que chrétien, il y a tout à coup des chemins qui se séparent. Je pense à une expérience vécue quand j'étais ingénieur en mécanique. Dans les bureaux techniques à la Wumar Machine, nous avons eu une soirée de bureaux. Et bon, je suis allé à cette soirée. On a d'abord commencé, comme bien souvent, par bien manger. Et puis certains ont plus que bien bu. Et aux environs de 11 heures le soir, comme ça, 23 heures, les dérapages arrivaient. Alors moi, je me suis levé, c'était pas très simple, et je suis parti. Et le lendemain, chose curieuse, je m'attendais peut-être à un certain nombre de critiques. Ils savaient bien que j'étais chrétien, je ne leur avais pas cassé les pieds, mais ils savaient que j'étais chrétien. J'avais parlé avec déjà beaucoup de ces personnes. Deux sont venus vers moi séparément pour me dire « Nous aurions été étonnés que tu restes avec nous ». C'est assez frappant, n'est-ce pas? Les non-chrétiens savent très bien ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là, c'était une expérience où nos chemins se sont séparés à partir de 23 heures. Mais il y a beaucoup d'autres occasions pour que nos chemins se séparent. Quand vous remplissez votre feuille d'impôt, peut-être que vous partez d'un côté ou de l'autre. Et dans tant d'occasions dans la vie, il y a des choix à faire, et la vie est une succession de choix. Nous devons souvent choisir entre ceci, entre cela, nous allons ici ou pas, nous prenons telle ou telle décision. La vie est une succession de choix, de décisions, d'options, de renoncement aussi au péché. Quand le péché arrive dans nos vies, quand la tentation est là, qui n'est pas encore le péché, eh bien, il y a des fois des décisions à prendre, il y a des lieux à quitter, il y a des images à quitter. Et là, j'ai... Non, ça va. Oh! Alors, voyons. Que s'est-il passé? Alors, dans cette parabole, j'ai fait de la dépression la route de l'Égypte et de la haute pression la route de Jérusalem. Et quand nous sommes dans cette situation du peuple de Dieu qui a quitté le pays de l'esclavage, qui a quitté le pays de l'horreur quelque part, pour marcher vers la terre promise, est arrivé là ce que j'appelle le grand mensonge. C'est allé trop vite. Voilà. La séduction des idoles conduit au grand mensonge. Le grand mensonge, je l'appelle dans toutes sortes de situations. Quand je préparais, par exemple, des couples, puisque j'étais 24 ans pasteur, et quand je préparais des couples pour le mariage, et j'en ai préparé plus d'une centaine, je consacrais une soirée sur les difficultés du couple. Alors, ils me regardaient souvent avec des yeux un peu éberlués en disant « Mais enfin, de quoi vous nous parlez? Nous, on va se marier, on s'aime tendrement, ça ne nous arrivera pas, c'est guère possible. » Mais j'essayais de leur dire quand même que ça pourrait arriver, qu'il y ait des difficultés, des tensions. peut-être pas ici à Neuchâtel, mais enfin à Saint-Blaise, ça arrive, voilà. Et dans mon couple aussi. Et je leur disais, c'est vrai, on peut résoudre beaucoup de choses, mais quand on laisse le grand mensonge s'installer dans nos cœurs, ça devient grave. J'ai aussi accompagné des couples dont, après parfois plusieurs années de mariage, un des époux dit à son conjoint « Je ne t'ai jamais aimé ». N'est-ce pas ? C'est un grand mensonge. Ben, ce n'est pas vrai. Ils se sont choisis, ils se sont aimés. Alors, ils ont laissé peut-être toutes sortes de difficultés prendre racine pour arriver un jour à ce grand mensonge. Et quand le grand mensonge envahit son cœur, c'est vrai qu'il y a un danger qui est énorme. Ainsi, nous voyons dans Nombre 16, est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel? Voyez le grand mensonge. Tu nous as fait monter d'un pays découlant de lait et de miel. Ils sont, c'est vrai, dans une certaine difficulté. Et pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la mer des gens s'ouvrir devant eux. Ils ont traversé cette mer. Ils ont vu l'armée du Pharaon qui était à leur trousse être engloutie par les flots. Ils ont eu déjà la manne, l'écaille. Ils ont vu la gloire de Dieu, le rocher s'ouvrir pour leur donner à boire. Mais c'était quand même très dur. C'était quand même le grand et affreux désert. Et dans la vie chrétienne, vous le savez, on peut avoir vu des miracles, on peut avoir vu la puissance de Dieu, mais ce n'est pas tous les jours ainsi. Et il y a aussi des temps où nous sommes un peu comme dans un grand et affreux désert, tout en étant en marche vers la terre promise. Et c'est là que nous courons le risque aussi du grand mensonge, en disant, mais finalement, avant que je sois chrétien, ou avant que je sois engagé dans une église, finalement, j'allais beaucoup mieux. Et c'était peut-être mieux, tout allait mieux, donc est-ce que je ne vais pas revenir en arrière? Et on oublie, à ce moment-là, qu'on est sorti de l'esclavage. On oublie qu'on aspirait après ce temps de délivrance, mais on perd pied, on perd courage, et on est prêt à revenir en arrière au nom de ce grand mensonge. Pays découlant de lait et de miel, afin de nous faire mourir au désert, vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. D'ailleurs, ils n'y sont pas encore entrés, ils l'ont vu de loin, les 12 espions. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. Vous voyez, le grand mensonge est l'aveuglement aussi. Et parfois, nous laissons aveugler dans notre vie et nous courons un risque de laisser entrer en nous le grand mensonge. Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. C'est totalement tragique ce qui se passe, mais j'ai quand même connu tant de chrétiens, de jeunes en particulier, qui ont connu le Seigneur, qui se sont tournés vers lui, mais c'est aussi le cas parfois d'aînés, et qui renient tout et qui reviennent à leur ancienne vie. C'est pour moi toujours une grande question de me dire, ou alors un attiédissement général qu'on trouve parfois chez les aînés qui disent, oui, quand j'étais jeune, j'étais aussi plein de feu. Quand j'étais au groupe de jeunes, où on avait des rencontres de jeunes, c'était merveilleux et tout. Mais la vie vous a tassé un peu, vous avez pris différentes habitudes et peut-être moins d'enthousiasme pour la parole, moins d'enthousiasme pour la prière. Et puis, peu à peu, c'est une sorte de désert qui s'installe. Alors, on ne revient pas franchement en Égypte, mais on tourne en rond, comme le peuple de Dieu dans le désert. Et ainsi, j'ai mis ici, voilà, l'Égypte et la terre promise. J'ai pourtant beaucoup, beaucoup d'images d'Israël, mais c'est quand même une image du sud de la France, là. Mais ce n'est pas grave. En Israël, on trouve aussi la mer et aussi des pins maritimes. Voilà, il faut que je cherche une meilleure image pour Israël. Pourtant, j'en ai beaucoup, mais je les ai encore sous forme de diapositives. J'ai beaucoup été en Israël, mais ça fait quand même pas mal d'années que je n'y suis pas retourné et je n'ai pas encore de numérique. Alors, voilà ici un peu les idoles qu'on trouve en Égypte et qu'on trouve partout et qu'on trouve jusque dans nos cœurs, puisqu'il y a un petit coin d'Égypte aussi dans nos cœurs, voyez. Alors, quand Israël a demandé un roi, et pourtant il y avait l'avertissement de Moïse en Deutéronome 17 qui disait « Quand vous demanderez un roi, attention, il va courir le risque du pouvoir, de la sexualité et de l'argent. » Et en Deutéronome 18, on va trouver toute l'annonce des idoles, de l'occultisme, entre autres. Et j'expliquerai un peu plus loin, mais il est vrai que ces idoles dominent notre monde. On peut dire que c'est de plus en plus présent dans les médias, de plus en plus présent dans tout ce qui se passe, là, une corruption incroyable, bien sûr, financière, mais au niveau de la sexualité aussi, et évidemment du pouvoir, parce que beaucoup se disent, si j'avais le pouvoir, j'aurais forcément aussi les finances et j'aurais aussi plus de liberté sexuelle. Et puis les divinités, évidemment, nous sommes idolâtres de nature. Je suis idolâtre de nature, c'est ainsi. Si on laisse sa vieille nature reprendre peu à peu des forces, nous sommes idolâtres. On fait très rapidement de telle ou telle chose, de telle ou telle habitude, une idole qui prend la place finalement du Seigneur. Et quand on réfléchit, quelles sont nos pensées qui dominent notre vie? C'est quoi qui... Alors, je ne dis pas qu'il y a de temps en temps des préoccupations qui nous occupent beaucoup, mais est-ce que ce sont des préoccupations passagères que l'on peut apporter à la croix, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui nous habite constamment? Et pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais si votre future joie, et vous vous en réjouissez depuis plusieurs jours, c'est la demi-finale de la Coupe UEFA, je n'ai rien contre un bon match de football, ou bien une émission The Voice, ou bien l'émission Un dîner presque parfait, pourquoi pas. Mais si c'est là... Le seul sujet de votre joie à venir ou d'autres choses ou tel loisir, on doit à un moment donné se poser des questions. Je ne dis pas que l'alternative c'est de vous lever chaque matin et si vous n'avez pas pensé à Jésus en premier, de lui demander pardon. Je ne dis pas cela. Mais qu'est-ce qui habite fondamentalement vos pensées et, qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance? Qu'est-ce qui vous amène à vous tourner vers Dieu dans sa parole et dans la prière? Ou alors, peut-être, céder à toutes sortes de choses. J'ai mis du pain et des jeux. On disait cela dans l'Empire romain. Pour calmer le peuple, il fallait du pain et des jeux. Mais aujourd'hui, nous en sommes un peu là, dans notre civilisation qui est décadente. Une civilisation qui arrive... quelque part, à son terme, si on compare à d'autres civilisations, eh bien, c'est vrai que du pain et des jeux, voilà, ça nous suffit. Et on verra cela, le peuple d'Israël a versé aussi dans du pain et des jeux, ça nous suffit. Vous verrez, c'est assez étonnant dans Jérémie. Et j'ai mis les égaux loisirs. Les loisirs, c'est bien. Je suis convaincu que c'est une bonne chose d'avoir des loisirs, et j'en ai, et j'en prends. Mais ça ne devrait jamais devenir des égo-loisirs. C'est-à-dire que ça prend une telle place dans sa vie, on y consacre tellement de temps et tellement d'argent, et surtout du temps, et un pasteur me disait encore l'autre jour, on ne trouve plus dans l'Église des personnes qui s'engagent à long terme. Même pas à moyen terme. Ils sont tous prêts à donner un coup de main, comme on dit, mais ils ne veulent pas s'engager. Par contre, ils sont souvent engagés dans des loisirs, et là, ils ne comptent pas leur temps. Donc, rien contre les loisirs, c'est surtout dans la vie stressante qui est la nôtre, il est important de prendre un peu de temps, je dirais pas sans Dieu, Si vos loisirs ne sont pas avec le Seigneur, posez-vous des questions. Si vous regardez un beau match de football, si le Seigneur n'est pas assis à côté de vous, est-ce qu'alors il vous a donné rendez-vous à ce moment-là dans votre lieu de prière? C'est important, quoi que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur, y compris les loisirs. Et peut-être que là, nous n'avons pas assez cette notion de vivre les choses avec le Seigneur, y compris des loisirs. Autrement, si le Seigneur n'était pas présent, alors demandez-lui d'être présent. Et puis si jamais il hésitait ou il n'était pas là, alors posez-vous des questions. Tel ce jeune homme qui, avant la conversion, était vraiment dans l'idolâtrie du cinéma. Il était tout le temps au cinéma. Et après la conversion, il a dit à son pasteur, « Est-ce que je vous encore aller au cinéma ?» Alors le pasteur, heureusement, a eu une très bonne réponse en disant, « Oui, tu peux y aller, mais prends Jésus avec toi. » Alors il va au cinéma la fois suivante, et puis il prend 2 billets. Et la dame qui le connaissait bien, elle lui dit, « Mais vous êtes seul ?»« Oui, mais voilà, je prends quand même 2 billets. » Et au bout d'un moment, il est ressorti, elle dit, « Mais ça, vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit, « Mais j'ai pris un billet pour Jésus et il n'aime pas beaucoup ce film. » Voilà, je pense que c'est un secret des loisirs et un secret de ce qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et je peux vous dire, des loisirs avec le Seigneur, ça prend souvent des dimensions extraordinaires. Et moi, j'ai assez peu de loisirs, mais d'une grande intensité. Alors, je fais du sport aussi, c'est nécessaire, quand on peut. Et une fois, j'avais un colloque scientifique près d'Albi, et j'étais dans les Pyrénées avec mon vélo de course, et je montais un col, c'était en automne. C'était d'une beauté incroyable. J'ai même eu l'impression que Dieu avait forcé un peu les couleurs pour moi. C'était un peu comme le paradis, et dans une pente un peu pas trop pentue à ce moment-là, je montais à toi la gloire, je disais, Seigneur, c'est extraordinaire comme ta nature est belle, comme il fait beau vivre des choses avec toi. Alors, voyez, dans Deutéronome 17, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Et ici, je suis toujours défié, nous sommes encore là dans le Deutéronome, parce que j'appelle l'accompagnement du Seigneur dans une vie de deuxième choix. Voyez, le Seigneur prévoit pour nous tous une vie de premier choix. Pour Israël, c'était qu'Israël vive avec comme roi l'Éternel Dieu. Mais Dieu savait aussi que ça ne se passerait pas comme ça. Il a prophétisé au travers de Moïse. Et Moïse, parlant au nom de l'Éternel, dit, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Moi, je suis impressionné de voir que quand on revient à l'Éternel, quel que soit le choix opéré dans sa vie, qui peut avoir des conséquences, bien sûr, il y a certains choix qui impliquent des conséquences, même à vie. Mais ça ne veut pas dire que l'Éternel ne peut plus être avec nous. Il peut être avec nous, il peut nous bénir dans un deuxième, voire un troisième choix, qui fait que ça revient, je dirais, au premier choix de l'Éternel, parce que c'est ce que j'appelle la chimie de Dieu. Avec le Seigneur, 2 et 2, ça ne fait pas forcément 4. Ça peut faire beaucoup plus, parce que Dieu est Dieu. L'essentiel, c'est de chercher la face de l'Éternel. Et puis, on a vu ensuite ces idoles qui vont entrer dans la vie. Voyez, qu'il n'aille pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte. Voyez. Et constamment, Israël, dans la douleur, dans les épreuves, a eu la tentation de repartir en Égypte, ou en tout cas, d'aller chercher le secours de l'Égypte. Et pourtant, c'est là qu'ils avaient été esclaves. Et dans nos vies, quand on quitte le péché, parfois, on va le rechercher. Parfois, on va rechercher des situations où on a l'impression qu'on était bien, où on a l'impression qu'on vivait quelque chose, alors que le Seigneur nous entraîne dans sa terre promise. Et voyez, je vous ai parlé de Jérémie. Quand il a dit, nous voulons agir selon toute parole qui est sortie, souvenez-vous, Jérémie, pendant 27 ans, annonce la parole de Dieu. Pendant 27 ans, il met en garde le peuple. Quelle est la patience de Dieu aussi à notre égard, qui nous avertit de plein de choses, qui nous avons sa parole, nous avons des prédications, nous avons des frères et sœurs en Christ, nous avons des journaux évangéliques, nous avons des cassettes, des vidéos, nous avons tout ce que nous voulons. Le Seigneur souvent nous parle, nous avertit et on n'écoute pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a du pain et des jeux. Et quand arrive l'exaucement de ces prophéties, le seul qu'on avait enchaîné, mis dans un puits, on lui avait fait toutes les misères, on avait déchiré les pages de la Bible, les unes après les autres. Et quand les armées de Nebuchadnezzar arrivent, il y a un ordre qui est donné par le chef de l'armée, prenez soin de Jérémie. C'est impressionnant, prenez soin de Jérémie. Et on dit, il dit à Jérémie, est-ce que tu veux venir avec nous? Tu veux rester ici? Va où il te semblera bon. Les autres sont enchaînés, eux qui se sentaient libres, eux qui pensaient être libres, les voilà enchaînés. Et celui qui aimait l'Éternel, qui suivait sa parole, le voilà libre. Et c'est très impressionnant de, quand on aime le Seigneur, quand on aime la liberté, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. En Galates 5, 1 par exemple. Et d'aimer l'Éternel, de le suivre, il est celui qui peut nous libérer d'abord intérieurement, de ne pas retourner dans notre Égypte ou en Égypte. Je n'ai rien contre l'Égypte, bien sûr, qui est un beau pays que j'aime bien. Et ça veut dire aussi que la vraie liberté, je pense à ce témoignage, vous avez peut-être entendu quand il y a eu les grands événements au nord du Mali en particulier, que les rebelles ont pris les villes de Gao, de Tombouctou, des villes que je connais bien aussi, Tombouctou en particulier, et il y a eu cette fameuse Sophie, vous en avez peut-être entendu parler, elle dirige un orphelinat à Gao, et on lui a dit qu'elle devait se réfugier au consulat d'Algérie. C'est une amie que je connais bien, que je viens de voir récemment, qui m'a rapporté encore dans le détail tout ce qu'elle a vécu. Et là, dans ce consulat, ça a été terrifiant. Pendant 2-3 jours, le consul n'arrivait pas à prendre la décision de partir. Et finalement, tous les ponts étaient coupés, la ville était occupée, elle a vu plusieurs fois des hommes en armes au portail. Et finalement, ils sont entrés, ils ont pris les consuls et ils ont laissé la liberté aux femmes qui étaient dans une autre maison. Et je passe sur des détails, elles ont pu fuir par une porte qui normalement était toujours fermée. Et c'est des gens qui ont pris cette Sophie, qui l'ont amenée dans une maison. Et le soir, des hommes cagoulés, elle voyait que les yeux, sont partis avec 2x4x4, ont traversé le désert dans des conditions incroyable de vitesse pour échapper aux rebelles. Et un avion l'attendait, tout était préparé, c'est une femme assez connue. Ils l'ont ensuite transférée sur Lyon où la télévision l'attendait. Et imaginez, elle a su bien plus tard que ceux qui l'ont exfiltrée étaient des rebelles, qui l'ont fait sans l'aval de leur chef parce qu'elle avait soigné un bébé qui était en train de mourir dans cette famille. Et voilà un exemple aussi, vous voyez, quand tant sont pris, et un des consuls est certainement décédé, on n'a jamais eu de nouvelles, l'autre est toujours prisonnier, mais cette femme qui aimait le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui se confie en lui, bien sûr, on a prié tout à l'heure, il y a aussi des frères et sœurs en Christ qui doivent mourir, qui sont persécutés, c'est vrai, c'est le mystère de la souveraineté de Dieu, mais combien et combien de chrétiens peuvent témoigner aussi de cette liberté au moment où les autres sont enchaînés. Donc, Jérémie, voyez, c'est terrifiant. Quand nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Offrir de l'encens. Et là, en Égypte, où Jérémie avait dit, surtout, ils ont tué Gedalia, qui était le gouverneur envoyé par Nebuchadnezzar, et de peur des représailles, ils sont partis en Égypte. Et Jérémie leur a dit, mais s'il vous plaît, vous avez fait, c'est incroyable ce que vous avez fait, mais restez là. Si vous allez en Égypte, Nebuchadnezzar va aussi y aller et il va vous prendre. Mais évidemment, ils n'écoutent pas. Et pourtant, ils avaient vu les premières choses s'accomplir. Et là, ils disent, nous voulons encore offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux, nous n'éprouvions pas de malheur. Voilà le pain et les jeux du peuple d'Israël. Et combien de personnes aujourd'hui disent, si nous avons cela, ça nous suffit. Et il y a même le risque des fois, même en tant que chrétien, d'essayer de mettre l'Éternel de notre côté pour avoir ce qui nous semble bien, pour avoir du pain et des jeux. Vous voyez ? Et parfois même nos prières peuvent être parfois un peu déviées pour que le Seigneur entre dans notre vision des choses plutôt que nous entrions dans la vision du Seigneur. Voilà, donc je retrouve ce dilemme. Et vous savez, quand on est partagé, quand notre cœur est déchiré, quand en nous, ça ne se passe pas très bien, qu'on tourne en rond dans le désert, qu'on hésite à revenir en arrière, on ne veut pas aller en avant, en même temps, on tourne en rond, on a peur de la volonté de Dieu, comme certains disent, mais j'ai peur vraiment de me donner complètement au Seigneur, j'ai peur de ce qu'il me demande et que je ne puisse pas. Est-ce que Dieu pourrait nous demander quelque chose et sans nous donner les forces pour l'accomplir? Et voilà ce qui se passe dans la vie intérieure de trop de personnes, y compris parmi les chrétiens. On a des disques qui tournent dans tous les sens, et ça fait des étincelles, et ça fait mal, parce qu'on est indécis. Je ne parle pas d'indécision passagère, je ne parle pas de moments où on ne sait plus trop comment faire, mais on se tourne vers le Seigneur. Mais si c'est un état qui dure, et surtout un état qui dure entre marcher avec le Seigneur en boîte, n'est-ce pas, en cloche des deux côtés, comme dit le prophète, et quand on cloche des deux côtés, évidemment, ça tourne très mal, parce qu'on va à l'église, on se repent, Seigneur, je te demande pardon, et puis on retombe dans ses travers, dans ses égo-loisirs, et puis on est culpabilisé, alors voilà, et puis finalement, ça donne toutes ces étincelles. Alors, se pose une grande question, si mes disques intérieurs tournent dans tous les sens, question, où est vraiment mon pays où coule le lait et le miel? Où est vraiment mon pays? Je suis en marche vers quel pays? Nous n'y sommes pas encore. Le parfait viendra. Nous sommes en marche, bien sûr. Nous y sommes déjà et pas encore. Mais nous sommes en marche. Nous sommes un peuple en marche. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, des jeunes, des moins jeunes. Nous sommes en marche vers cette terre promise. Alors, je donne un autre aspect, et rassurez-vous, je ne vais pas aller trop loin, mais vous arrivez peut-être à lire « Front d'avertissement prophétique ». Parce que je reprends quelques éléments de la météo. Vous savez qu'il y a des fronts. Il y a des fronts chauds et des fronts froids. Les fronts d'avertissement prophétique. Parce que, comme je l'ai dit à propos de Jérémie ou de Moïse dans Deutéronome 17, le Seigneur nous avertit, il nous donne des signes, des avertissements, il nous montre un certain nombre de choses pour que nous revenions à lui ou que nous marchions avec lui plutôt que de se laisser surprendre par le péché, par une chute ou par des événements que le Seigneur n'aurait pas voulu qu'on vive. Alors, vous avez le front chaud, c'est très simple. C'est que les masses d'air, vous voyez, vous avez de l'air froid ici en bas, c'est le cas ces jours ici. Et puis, si vous avez de l'air chaud qui arrive des îles Britanniques, il n'y a pas que le froid, vous voyez, eh bien, on a d'abord des cirrus très hauts dans le ciel. Le ciel se voile très lentement, il fait encore beau temps, c'est agréable, et peu à peu, les nuages s'épaississent pour finir par la pluie pour finir vraiment par le mauvais temps. Mais ça commence tout doucement. Dans le ciel, on voit les avions qui passent, ils laissent une traînée plus importante, et puis il y a des voiles, des cirrus, et puis peu à peu, ça se complique un peu, et finalement, peut-être un ou deux jours après, parce que des fois, il y a deux à trois jours de différence, on finit par avoir la pluie. C'est ce qu'on appelle un front chaud. Et le front froid, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que vous avez de l'air froid ici, mais de l'air plus froid, et l'air chaud est en haut. C'est quand il fait plus chaud à la Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel. Et on voit une barre noire dans le ciel, et subitement, le mauvais temps est sur nous. Ça va très, très vite. Un front froid. Par exemple, la grande tempête du mois de juin l'année passée était un front froid. Et j'ai vu cette barre s'avancer depuis Saint-Blaise, c'était impressionnant, elle s'avançait à 100 km/h. Et comme à mon habitude, depuis 4 ans, 5 ou 6 ans, quand la grêle commence à tomber, je l'arrête au nom de Jésus. J'étais pris, moi j'aimais bien l'orage, j'aimais même bien la grêle, autant que ce ne soit pas trop grave, puis que ce soit dans mon salon. Et j'étais pris un jour de compassion pour les vignerons et les maraîchers. Et puis, subitement, sans réfléchir, je dis, au nom de Jésus, ça s'arrête. Et ça s'est arrêté net. Et déjà, plusieurs fois. Et dans cette grande tempête l'année passée, on a lutté avec mon épouse, derrière nos fenêtres, mais vraiment, et ça ne s'arrêtait pas vraiment. J'étais un peu déçu, pas du Seigneur, mais un peu de ma prière et de notre prière. Et d'ailleurs, vous ne courez aucun risque quand vous luttez contre une tempête. Vous faites personne. Si ça ne se passe pas, ce n'est pas comme si vous dites à un paralytique, lève-toi au nom de Jésus et sur sa chaise. Vous pouvez faire des dégâts. Mais, ceci dit, on aimerait bien voir des paralytiques se lever, n'est-ce pas? Fortifie le courage dans la prière. Mais, ça a quand même été relativement faible. Et quand on est sorti, on a trouvé qu'il y avait assez peu de dégâts. Et le lendemain, nous étions stupéfaits, à la télévision aussi, de voir les énormes dégâts sur le littoral neuchâtelois. Nous sommes partis 3-4 jours pour une retraite dans le sud de la France et au retour, je lis dans les journaux, miraculeusement, le vignoble de Saint-Blaise a été épargné. Alors, chers amis, nous pouvons, par compassion, lutter parfois contre des tempêtes et pour autant qu'on ait la compassion de ceux qui vivent de la terre, de ceux qui dépendent, n'est-ce pas, de la météo aussi. Voilà une image de ces nuages. Ce n'est pas le nuage du mois de juin de l'année passée, mais c'est vraiment important de discerner, nous avons affaire à quel front. Dans sa grâce, Dieu, je dirais, met beaucoup de front chaud dans notre vie. Il nous avertit tranquillement, lentement, comme avec Israël pendant 27 ans. C'était un front chaud. Mais quand on méprise les avertissements du front chaud, le front froid peut arriver très brusquement. Voyez, quand vous avez sur les montagnes du Jura, vous avez ces fameux rouleaux. Parce que le front froid doit monter la montagne, l'air froid doit monter tranquillement, et quand il arrive au sommet du Jura, il nous tombe dessus en quelques minutes, avec des vents parfois très violents, et la pluie aussi. Voyez, il est dit, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Et ce passage, où est la promesse de son avènement? Là, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, voyez, disant, oui, mais vous dites que Jésus va revenir, vous dites le royaume va venir, vous dites qu'il y aura un jour l'antéchrist. Mais depuis le temps que ces choses sont annoncées, il ne se passe rien. Et nous avons bien sûr le parallélisme avec le déluge. C'est vrai, imaginez Noé qui construit son bateau pendant une centaine d'années, combien ses voisins ont dû rigoler. combien les gens ont dû se lasser d'entendre Noé appeler à la repentance comme Jérémie l'a fait, et il ne se passait rien. 100 ans, c'est quand même long. Ça veut dire que ça comprend à l'époque peut-être au moins deux générations, n'est-ce pas, même s'il vivait très longtemps. Et ils ont dû se moquer de lui, et subitement, le déluge a commencé avec vraiment quelque chose qui a été majeur. Alors, et je vais terminer, que faire? Que faire quand nous tournons en rond? Que faire quand nous sommes attirés comme happés vers une ancienne vie ou vers des habitudes de péché ou des vies, je dirais, plus ou moins sans Dieu? Vous savez, on s'habitue à ne plus lire la parole. On s'habitue à ne plus prier. J'entends des fois des chrétiens rétrogrades, alors il ne faudrait jamais leur dire ça, n'est-ce pas, mais qui disent, oui, moi je vois les choses différemment, je vais peut-être encore occasionnellement à l'église, mais je ne prends plus tellement de temps pour lire la Bible, et puis la prière, et puis ça va très bien dans ma vie. Ça va très bien. Et oui, c'est comme un avion moteur, n'est-ce pas, qui n'a plus d'essence, il peut encore planer un bout, bien sûr. Mais la chute en sera d'autant plus spectaculaire qu'on se pense être encore en sécurité. Donc, que faire? Il y a un seul chemin, c'est d'entrer dans le tabernacle, voyez. Alors, je ne veux pas détailler le tabernacle, là, je n'ai pas pu enlever ça, mon loisir encore, je le ferai. Mais, c'est peut-être pas du hasard. Il faudrait aussi que la joie du tabernacle, vous savez, le parcours du tabernacle où on entre, d'abord il y a l'autel des sacrifices. Et là, on court un risque comme chrétien, c'est de dire « Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. » Et vous savez ce que le Seigneur répond? Il dit « Eh oh, moi je suis à la droite du Père. L'animal maintenant c'est toi. Comment ? » Lis Romains 12. « Offrez vos vies comme un sacrifice vivant et agréable. » C'est nous maintenant qui devons offrir nos vies. Puis il y a l'autel de la purification, puis ensuite on entre dans le lieu saint, il y a la parole, il y a la prière, il y a le... Et puis, finalement, on va dans le lieu très saint. Et c'est peut-être pas du hasard que c'est resté. J'espère que vous avez de la joie à lire la parole de Dieu. Je vais dans les églises maintenant. Je suis prêt à venir une fois chez vous, si vous le voulez. Dès qu'il y a 5 personnes qui sont intéressées, je me déplace pour redonner vraiment la passion de la parole de Dieu. J'ai découvert dans ma vie une manière de travailler la parole qui me passionne, littéralement. Et je dirais, si la vie chrétienne n'est pas une joie aussi, si ce n'est pas une joie de rejoindre son Seigneur dans la prière, je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours gris, je ne dis pas qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Mais dans l'ensemble, si ce n'est pas une joie autant qu'un loisir, il faut se poser des questions. Donc, entrer dans le tabernacle, c'est là où on peut résoudre en profondeur les choses. Et je termine avec ce psaume 73. Vous savez qu'Asaph, qui dirigeait la louange au temple de l'Éternel à Jérusalem, a passé par une crise. Et ça arrive que nous ayons des crises spirituelles. Et Asaph a eu une crise très pénible. D'abord, il a regardé autour de lui et il a vu plein de gens, selon son jugement de crise, plein de gens heureux. Ils n'ont aucun problème. Même jusqu'à la mort, il n'y a rien. Et puis, ils ont un bon embonpoint, ils mangent bien, ils vivent bien. Et puis, après, il s'est regardé lui-même, il s'est dit, « Waouh, qu'est-ce que je suis malheureux. Je ne vis rien de tout ça. Moi, je vais au temple régulièrement, mais il est en crise profonde. » Et il dit, « C'est en vain que j'ai purifié mes mains, voyez. » C'est la crise de ceux qui disent, mais finalement, à quoi bon? Je vais à l'église depuis tant de temps, je lis la parole, je prie, et puis je suis quand même au chômage, j'ai quand même des difficultés dans la vie, j'ai des difficultés de santé, et puis je vois mes voisins, comme à l'église, ils vont très bien. Et Asaph dit, ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires, c'est-à-dire qu'il fasse le parcours du tabernacle quelque part, et qu'il aille devant l'Éternel en disant « Seigneur, comment toi tu vois les choses ?» Quand il y a une crise dans vos vies, ou quand vous êtes en crise avec quelqu'un, ça peut arriver jusqu'au cœur de l'Église, je ne pense pas, mais qu'il y ait des fois des crises, ou avec des voisins, ou des personnes avec qui on travaille, on est sûr d'avoir raison, évidemment. Mais si on allait dans le tabernacle et dire « Seigneur, comment toi tu vois les choses ? Comment tu vois les choses ?» Alors on est parfois appelé à se reprendre, oui, mais comment tu vois les choses ? Je tourne en rond dans mon désert actuel, j'ai des fois envie de retourner, Seigneur, à cause de ça, parce qu'on a toujours des raisons. C'est à cause de ça que je suis en crise, évidemment, c'est à cause de cette personne, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Seigneur, comment tu vois les choses ? Seigneur, aide-moi à voir avec tes yeux. Et là, Asaph, ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a vu le sort final de ceux qu'il considérait comme heureux. Il a vu, il dit même...